Vivre heureux, vivons Côtier. Une émission produite et réalisée par Christophe Médici.
Chers amis, bonjour, quelle joie et quelle chance de vous retrouver pour un nouveau numéro de Pour Vivre Heureux, Vivons Côtier sur Dynamique Radio. Et oui, et j'ai eu envie aujourd'hui de traiter avec vous d'un thème, chers amis auditeurs, qui vous a toutes et tous émus, j'en suis persuadé. Il s'agit du harcèlement à l'école. Vous comme moi, vous avez été encore très touché par le suicide du petit Lucas le 7 janvier dernier, il y a un mois à peu près, jour pour jour, lié à cette émission. Et j'ai eu envie d'entendre des témoignages, que vous puissiez nous appeler. Et que moi, en tant que psychosociologue, coach et spécialiste des communications toxiques, puisse vous répondre au micro de Dynamique Radio. Ça fait des mois et des années que j'ai écrit un certain nombre de livres sur cette question et vous connaissez le numéro de la radio, vous pouvez nous appeler, on est là pour vous, pour toute l'émission, que vous soyez parent d'enfants harcelés, que vous soyez enfant ou ado ou étudiant harcelé vous-même, que vous soyez enseignant et vous voyez ça de vos yeux, appelez-nous, on est là pour vous, n'hésitez pas, à tout de suite, on vous répond.
Il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui, tu l'as déjà vu. Il partageait ton cœur dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais son nom je sais plus. Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on est plus nombreux? Je l'avoue, le cœur gros, oui, j'ai ri avec eux. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans toutes les cours d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous classe et qui nous cogne. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Et on était plusieurs. Il faut en faire valoir pour se sentir meilleur. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, on ne l'a plus jamais vu.
Maël nous fait rentrer dans le vif du sujet, oui, l'effet de masse. C'est-à-dire qu'il y a toujours un effet ou de masse ou de meute lorsque un enfant ou un ado est harcelé. C'est pas par qu'une seule personne la plupart du temps. Vous appelez beaucoup. Vous êtes vraiment mobilisés et vous vous posez beaucoup de questions. On est là pour vous. On a un premier Radio Coaché.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne.
Oui, bonjour.
Nous sommes heureux de vous accueillir sur les ondes de Dynamique Radio dans mon émission radio pour vivre heureux et vivre coaché. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire au sujet de ce problème du harcèlement à l'école?
Alors, moi je voudrais témoigner du fait, de ce qui est arrivé à mon fils l'année dernière.
Oui, dites-nous.
Qui a été vraiment maltraité, mais il n'y a pas d'autre mot, par son institutrice.
Il est en quelle classe, votre enfant?
Il était en CM2 à ce moment-là.
D'accord, donc fin de primaire, oui. Et alors, vraiment, la maltraitance, c'est de la part de l'institutrice qui l'a vécu.
Il était vraiment pris pour un bouc émissaire.
Aïe, aïe, aïe.
Ah, il a été le souffre-douleur de son instinct qui l'a humilié, rabaissé, limite insulté, au point qu'il avait vraiment la boule au ventre, il pleurait le matin pour y aller et j'ai dû le déscolariser.
Ah, vous l'avez carrément déscolarisé. Mais ce qui est intéressant, c'est que évidemment beaucoup de gens appellent au standard, mais votre témoignage est original dans le sens, Fabienne, où on va avoir énormément de gens qui vont appeler par rapport à du harcèlement de la part d'élèves au pluriel vis-à-vis d'un autre élève, vous voyez, ou de la même classe ou d'une autre, en tout cas du même établissement. Vous, en l'occurrence, vous interrogez là la relation élève-enseignant, enseignant-élève. Et il va de soi, le retour que j'ai envie de vous faire en tant que coach et psychosociologue, qu'effectivement, l'enseignant est un humain et parfois il peut avoir, entre guillemets, des incompatibilités d'humeur ou voire être pas complètement subjectif vis-à-vis d'un enfant parce que pour X raison, ça passe pas entre eux. C'est ce qui s'est passé, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Et vous êtes allée vous en ouvrir auprès de l'enseignant, Fabienne?
Alors, j'étais à la rencontre de l'institutrice. On a essayé de d'instaurer un dialogue, mais vraiment, c'était pas possible.
D'accord.
Ensuite, ça a été la directrice. J'ai consulté une psychologue qui a fait un courrier à l'inspection du travail, de l'inspection de l'académie.
Oui.
Et tout ça pour aboutir à un changement de classe.
D'accord. Donc en fait, après, vous l'avez, et je pense que la solution la plus salvatrice, vous l'avez faite, c'est-à-dire que vous avez voulu changer votre enfant d'établissement, n'est-ce pas?
Oui.
C'était la meilleure des choses à faire. Parce que si à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe vraiment mal avec un enseignant, je pense que d'ailleurs, vous avez été pleine d'amour, et c'est une preuve d'amour que vous avez eue pour votre enfant que de faire ça. Beaucoup de parents ne le feraient pas, vous voyez ce que je veux dire? Là, on entend des enfants derrière vous, d'ailleurs. Vous êtes toujours là, Fabienne? Vous êtes toujours là?
Oui.
Vous êtes toujours là, d'accord. Écoutez, Fabienne, je vous remercie d'avoir débuté l'émission sur ce sujet-là. C'est un sujet plus compliqué parce que c'est la relation parent-prof et c'est plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire, Fabienne?
Je voulais témoigner parce qu'en fait, les conséquences sur l'enfant quand même... c'est pas rien.
C'est vrai.
Et l'institutrice avait quand même émis l'idée qu'il puisse être suivi, avoir un suivi particulier mis en place parce qu'elle l'avait mis dans un groupe d'enfants en difficulté. Elle ne voulait absolument pas qu'il entre au collège. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il est au collège et qu'il a 16 de moyenne.
Exactement. Mais la subjectivité complète d'une relation toxique, vous le savez dans ma méthode, Fabienne, veut dire que de toute façon, si on tombe sur quelqu'un de toxique pour soi, de fait, je crois que c'est arrivé à des millions d'enfants tout au long de leur scolarité depuis le début de l'histoire de l'école, on va dire. Et là, il y a peu de parents qui sont aussi lucides que vous, qui prennent la défense de leurs parents. Je dirais même que parfois, il y a des parents qui surajoutent à ça et vont même encore prendre la défense de l'enseignant et vont en rajouter dans le sadisme vis-à-vis de l'enfant. Donc bravo Fabienne, bravo. Bravo et votre enfant vous doit, vous connaissez l'expression, une fière chandelle. On vous
merci
embrasse beaucoup. Fabienne et à très bientôt sur Dynamique Radio. On vous embrasse.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
J'étais là seul dans la cour à regarder les autres qui courent. À essayer de se faire discret, de ne pas se faire remarquer. Il était là, seul dans la cour, à attendre que finissent les cours, attendre d'être un peu chez lui, avoir un peu de répit. On le voyait là, seul contre le mur, à essuyer les tas d'injures que les autres lui jetaient pour rire. Moi je restais là sans rien dire. On le voyait là, seul contre le mur, le regard de plus en plus dur. Moi j'étais lâche, moi j'osais pas, de peur que ça m'arrive à moi. Il était là seul dans la cour, à laisser défiler les jours, à toujours traîner son air triste, se demander pourquoi j'existe. Il était là seul dans la cour, à même pas demander d'amour, et même pas qu'on lui rende ses billes, mais juste qu'on le laisse un peu tranquille. Il était pas de ceux qui se battent, pas de ceux qui se donnent des patates. Il était pas dans les balaises, mais plutôt de ceux qui se taisent. Il était pas de ceux qui balancent, trop enfermés dans son silence. Il était de ceux qui les cachent, tous les coups, les traces et les tâches. Il était là seul dans la cour, et moi-même je m'y suis mis un jour. Fallait bien faire partie de la bande, fallait pas que ma jouche leur tende. Il était là seul dans la cour, à toujours avoir peur d'autour, du plus petit bruit, du plus petit cri, je crois bien qu'il dormait plus la nuit. Il était là seul dans le noir, tout sur le dernier, dans le couloir, personne n'a vu, personne n'a su, personne ne voulait avoir pu. Il était là seul dans le noir, entouré de son désespoir, a même pas demandé d'amour, non même pas demandé d'amour. Il était là seul dans la cour, a même pas demandé d'amour. Il était là seul dans la cour, a même pas demandé.
Seul dans la cour, nous dit Grégoire, et oui, encore une très belle chanson, et d'ailleurs c'est le cas, beaucoup de chansons sur le harcèlement à l'école de la part de grands artistes, et c'est très bien. Vous appelez beaucoup, vous posez beaucoup de questions, et évidemment, puisque un enfant sur 10 se dit harcelé depuis une vingtaine d'années à l'école, ce qui fait à peu près 1 million d'enfants, on a un nouveau Radio Coaché.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonjour Lucas. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Lucas ?
Oui ?
Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir, c'est Christophe Médici sur les ondes de Dynamique Radio dans Pour Vivre Heureux, Vivons Coachés. Lucas, je suis d'autant plus heureux de vous avoir en ligne que vous portez le même prénom que le petit enfant pour lequel nous rendons hommage aujourd'hui. Vous savez, le 7 janvier 2023, le jeune Lucas s'est suicidé parce qu'il était harcelé, parce qu'il était homosexuel, et il était en quatrième. Et comme je le disais juste avant de vous avoir en ligne, Lucas, c'est le cas de beaucoup d'enfants qui, parce qu'ils sont aux yeux d'autres moches, ou qu'ils ont, comme dirait ma grand-mère, dès que t'as un pet de travers, je veux dire, t'as un problème trop gros, trop maigre, comme voilà. Lucas, je crois que vous, ça vous touche particulièrement parce que vous avez eu un moment de votre scolarité où vous avez vécu du harcèlement. Vous pouvez nous en parler, Lucas?
Oui, c'est ça. J'ai vécu du harcèlement, oui, pendant un moment de ma scolarité.
Qu'est-ce qui se passait? Racontez-moi. Racontez-moi.
Alors, du coup, moi, c'était pendant mon année de classe préparatoire. J'ai fait une classe préparatoire ECS, ça s'appelait, oui. Économie, commerciale, option scientifique.
Oui.
Et il se trouve qu'en fait, du coup, pendant cette année-là, j'ai subi ce qu'on appelle du harcèlement psychologique.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai été mis à l'écart. Donc, c'est-à-dire que ça a commencé avec un petit groupe de personnes et ça a fait ensuite effet de masse et tout le monde m'a mis complètement à l'écart.
Donc vous avez senti l'effet de masse dont je parlais, la chanteuse Maëlle en début d'émission, j'ai passé la chanson de Maëlle, l'effet de masse, hein. Vous avez senti cette espèce d'effet qui fait que, bah voilà, il y en a un, puis deux, puis trois, puis quatre, c'est ça, et donc
ça,
vous, le sentiment et la sensation que vous avez eu à un moment donné, c'est un isolement, n'est-ce pas Lucas, c'est ça, hein?
C'est ça, oui, c'était plus qu'un isolement, oui.
Plus que ça.
C'était vraiment à éviter le regard, à ne plus parler.
Mon Dieu. Et est-ce que vous avez, alors, ce qui est important, chers amis auditeurs, je sais que vous avez des milieux à écouter Vivons Coachés chaque semaine, et Lucas, je vais vous poser cette question, on a une propension dans ces cas-là à encore plus s'isoler, c'est vrai, hein, à se replier sur moi, ce qui est complètement, sur soi, c'est complètement animal, vous comprenez, c'est normal, on a, alors que à la vérité, une des solutions serait de ne pas s'isoler et d'aller chercher des solutions à l'extérieur de ce groupe de harceleurs. Je rappelle à tous les auditeurs, Lucas, vous nous faites cette chance, de cette gentillesse de nous appeler sur Dynamique Radio, que le harcèlement vient du latin harceler, qui veut dire tourmenter. Vous pouvez nous dire comment ça a dégénéré, quel message vous receviez, Lucas? Dites-nous, soyez dans les détails, ça nous intéresserait. Racontez-nous ce qui se passait.
C'était pas vraiment des messages en soi que je recevais. Du coup, c'était vraiment, je sais pas comment vous expliquer, c'était... Juste, on évitait de me parler, on passait outre. J'essayais de parler à quelqu'un, on m'évitait ou on m'ignorait, on évitait ma question ou ce genre de personne, ce genre de choses. Et quand ça se passe sur toute une année, le problème, c'est que ça devient très, très lourd, surtout que c'est dans un contexte où on a beaucoup de travail, où les professeurs nous mettent la pression. Et du coup, on n'a pas forcément le temps de se poser la question de « est-ce que c'est normal ou pas ?»
Et oui, donc, et là vous touchez du doigt un autre toxicum des cinq familles de toxicum de la méthode HQR, parce que les comportements comme ça sont des comportements basse qualité relationnelle, Lucas, d'accord ? Donc toxiques. Donc de fait, c'est de la maltraitance. Et je le dis à tous les auditeurs. Hein, on est en 2023, il serait peut-être temps qu'on se réveille, que l'humanité sorte du Moyen-Âge relationnel. Ce que vous vivez tous quand vous vivez ça, et d'ailleurs que ce soit à l'école ou le harcèlement au travail, c'est, et puis même le harcèlement dans le couple ou dans la famille, c'est de la maltraitance. On est d'accord ? Ce que vous vivez là, ce que vous viviez, on est d'accord, parce que vous en êtes sorti grâce à Dieu, Lucas, ça s'appelle l'indifférence non-verbale, vous comprenez ? C'est-à-dire, ça passe pas par les mots, mais c'est aussi toxique et ça fait autant de mal. Imaginez le mec, il est directeur marketing du 24e étage de la tour EDF, l'autre, elle est assistante de direction ou standardiste, passe dans les couloirs, il lui dit même pas bonjour, vous comprenez, Lucas ? Autrement dit, elle lui dit rien. C'est de l'indifférence non-verbale. C'est ce que faisaient les élèves de votre classe avec vous, Lucas. Et donc, oui. Ça fait mal. Ça fait très mal. On se comprend tous les deux ? Alors, je vous comprenais ma véhémence, je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que j'ai déjà écrit 19 livres en 19 ans, n'est-ce pas ? Et que l'un de mes livres s'appelait « La HQR à l'école pour un établissement sans violence » que j'ai écrit, et asseyez-vous tous, chers émoniteurs, vous qui êtes des milliers à écouter l'émission, en 2009. Et sur les 120 000 stagiaires que j'ai déjà formés aux quatre coins de France, d'Europe, du Québec, d'Afrique, de n'importe où à ma méthode, près de dizaines de milliers sont des enseignants, vous entendez, Lucas ? Et ils ont tous voulu que je vienne, qui dans leur école primaire, qui dans leur lycée, qui dans leur collège, qui dans leur fac, avec mon centre de formation en tant que spécialiste de la formation continue, transmettent la méthode, hein, pour un établissement sans violence, je l'ai devant les yeux, d'accord ? Et savez-vous combien on en a fait à l'éducation nationale des conférences, Lucas ? Eh bien, zéro. Et quand je vois, la semaine dernière, sur une chaîne de télé qu'on connaît très bien, parce que vous savez que j'interviens aussi à la télé, la mère de Lucas en larmes s'effondrer devant tous les journalistes et de dire comme s'il y avait que les quatre jeunes qui étaient responsables du suicide de mon enfant de 13 ans, et la première des responsabilités, vous m'entendez, Lucas, c'est évidemment l'institution elle-même. C'est pas nos amis enseignants qui, eux, n'y sont pour rien. Eux, en plus, ils n'ont même pas été formés à cela, vous imaginez bien. Donc, ce sont des victimes comme les autres, voyez ? Simplement, cette pourriture d'institution dirigée par les politiciens, qui est la pire engeance de la Terre, vous m'entendez bien, fait que dès l'instant où ça monte au rectorat ou à l'académie, tout ce qui est formation continue, tout ce qui est formateur, tout ce qui est psychosociologue, ils ne veulent pas en entendre parler. Et c'est à eux. Et la maman de Lucas qui était en larmes, quand disait, mais comme s'il y avait que les quatre jeunes qui étaient responsables. Mais bien sûr qu'il n'y a pas que les quatre jeunes qui sont responsables. C'est l'institution et le ministère qui est responsable. Si, c'est mon combat, et vous le savez, Lucas, et vous allez me dire comment vous réagissez par rapport à ce que vous dites, et vous sentez ma révolte, mon coup de gueule à la Gabin, hein. On dit toujours qu'il y a le coup de gueule de Médicis, comme il y avait le coup de gueule de Gabin dans chacun des films. Mais là, c'est un pur scandale. Comment ça vous parle, Lucas?
Ça me parle, moi, tout ce que vous dites, oui, ça me parle totalement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites de toute façon.
Parce que vous voyez là, à ce moment-là, vous seriez allé voir le directeur pédagogique, vous seriez allé voir les gens de direction de votre école. On se demande s'ils ont fait quelque chose. Parce qu'encore une fois, les politiques ne bougent que si ça passe aux 20h, vous comprenez ? Tant que ça passe pas aux 20h, les responsables d'établissement, ils disent « Vous fermez votre bouche, s'il vous plaît, pas de vague. Hein. C'est l'effet pas de vague, je veux que mon établissement soit bien noté. » Vous comprenez ? Donc tout le monde, finalement, sort le parapluie. Tout le monde sort le parapluie. Et les ceux qui en pâtissent, ben, c'est les enfants qui se suicident. Et les profs qui font un burn-out ou sont en dépression au bout de 3 mois d'enseignement. Est-ce que vous avez encore un mot à dire ? Est-ce que vous pouvez nous donner un autre exemple de ce qui se passait lors de votre période de harcèlement ?
Il n'y avait pas grand-chose de plus par rapport à ça en soi. C'était vraiment ce qui était le plus douloureux, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était vraiment la durée, c'était l'isolement sur la durée qui était le plus difficile. Et puis ce qui est le pire, c'est que étant donné que je me rendais pas forcément compte de ce qui se passait sur le moment, je pouvais pas vraiment en parler. Je me rendais pas compte en fait de ce qui se passait. Parce que c'est vrai que quand on parle du harcèlement, en général, on parle de, par exemple, d'agression physique ou d'agression verbale. Et dans mon cas, c'était pas forcément le cas, c'était vraiment juste on m'ignorait. Même moi, je ne considérais pas ça comme du harcèlement pendant tellement longtemps. C'était jusqu'à ce que je vois ma psychologue, en fait, qui m'a vraiment ouvert les yeux en me disant « mais c'est de la maltraitance et c'est du harcèlement ». Et avant, je ne m'en rendais absolument pas compte.
Oui, notamment vous vous en rendiez pas compte parce que, comme dit mon ami Boris Cyrulnik, souvent l'être humain dénie quand il lui arrive de la maltraitance. Et comme dit Cyrulnik, le déni fait des dégâts, vous comprenez ? Et c'est aussi le cas chez les adultes. Ne soyez pas étonné, Lucas. Il y a beaucoup d'adultes qui dénient le fait d'être harcelés au travail, vous comprenez ? Et tant que tu dénies, plus tu vas dénier, j'ai envie de dire, pire ça va être. Donc, il est clair que vous avez fait un travail avec une psy et ça, c'est formidable. Vous en êtes sorti maintenant, Lucas, on est d'accord ?
Oui.
Bon, et ça, c'est très bien. Ça laisse des traces, on est bien d'accord, ça laisse des traces. Hein. Mais vous, vous êtes en vie. Hein. Et n'oubliez pas cette phrase de Nietzsche, tout ce qui ne nous détruit pas nous rend plus forts. Hein. J'ai fait Hippocagne et Cagne. J'ai fait de longues études à l'école normale supérieure. Donc, je suis un littéraire de formation. Et je peux vous dire une chose, c'est que il y a une chose très importante à savoir, c'est que toutes ces blessures, toutes ces difficultés, mémorisez bien ça, Lucas, et vous écouterez l'émission à nouveau en podcast, hein, et quand elle passera vraiment, vous pourrez vous entendre. Dans Nuit de décembre, Musset dit une jolie chose, vraiment, vous allez comprendre mon côté Lucchini. Il dit « Rien ne nous rend plus grand qu'une grande douleur. Ce qui fait vos grandes blessures que vous avez traversées, Lucas, fait aussi le fait que vous êtes un homme très riche, et vous en ferez quelque chose. Sans douleur, il n'y aurait pas eu Mozart, il n'y aurait pas eu Proust, il n'y aurait pas eu Bach, il n'y aurait pas eu Salvador Dali. Sans Mozart, pas de génie. Sans douleur et sans souffrance, pas de génie. » On se comprend tous les deux, hein? Donc, vous allez faire de grandes choses, Lucas, vous m'entendez?
Oui, merci, mais j'en doute pas du tout maintenant.
Je veux vraiment que vous l'entendiez, on est la seule et unique émission 100% écologie relationnelle du PAF, et Dieu sait si on en est fier. Ça fait 7 ans que je fais cette émission, sur pas mal d'antennes, et maintenant depuis 4 ans sur Dynamique Radio. On vous embrasse, Lucas. C'est parti pour une longue vie. On vous sent encore jeune, mais c'est parti. Et merci d'avoir écouté et d'avoir participé à Pour vivre heureux, vivre coaché. On vous embrasse. À très bientôt, Lucas.
Eh bien, merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion, en tout cas.
Petite Émilie, 6 ans et demi, est l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, des yeux qu'en sorcelle, force de sa mère, elle en était la prunelle. Elle ne pouvait pas vivre l'une sans elle, leur relation était devenue plus que fusionnelle. Petite Émilie, à 8 ans passés, rien n'a changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée, elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. Nouvelle école, de nouveaux amis, elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie, car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Petite Émilie, à 10 ans, était devenue une petite fille comblée. On peut dire que l'école lui plaisait. Bonne élève pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues, elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, il l'appelait bouffe-tout, mais ce ne sont que des enfants après tout. Petite Émilie, à 12 ans maintenant, adolescente enfermée au grand âme de maman. Fini le joli visage souriant, c'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé, trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée, tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face, elle était devenue le souffleur de la classe. Sur les réseaux sociaux, il l'appelait la dégueulasse. Des photos d'elle tournées montrant son ventre qui dépasse, mais ne sachant pas comment faire ni comment réagir à cet enfer. Par honte et ne voulant pas voler sa mère, petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle dénudée. Ses camarades, tous ensemble, avaient enfermé dans le vestiaire pour la doucher. C'en était trop pour elle, trop qu'elle ne puisse encore supporter. Alors elle étendit ses ailes et prit son envol vers la paix.
Encore une très belle chanson contre le harcèlement scolaire. Vous êtes toujours avec Christophe Médici sur Dynamique Radio dans Pour vivre heureux, vivons coachés. Nous traitons du harcèlement à l'école. Nous rendons hommage au petit Lucas qui s'est suicidé il y a 1 mois. Et je répète, il y avait un ancien Premier ministre qui avait dit cette phrase magnifique. C'était à un moment où il était ministre de l'Éducation nationale. Dans l'émission L'heure du vérité, il avait dit « Demain, c'est la rentrée et si l'école allait à l'enfant ». On a une nouvelle radio coachée.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonsoir Linda, bonjour Linda, comment allez-vous ?
Oui, bonjour Christophe.
Nous sommes heureux de vous accueillir sur les ondes de Dynamique Radio dans Pour Vivre Heureux, Vivons Coaché. Vous nous appelez de quelle région, Linda ?
À côté d'Agen.
Ah, vous avez un bel accent du Sud. On entend le soleil dans votre voix.
Oui, en plus, il est là.
Vous êtes une maman d'enfant qui a vécu du harcèlement. Racontez-nous, racontez à nos amis auditeurs.
Alors moi, je voulais juste savoir quels conseils vous pourriez donner à des personnes comme moi, justement, qui ont eu un enfant qui a été victime de harcèlement. Quand on est face à des personnes de l'éducation nationale qui ne nous écoutent pas, en fait, qui ne nous prennent pas au sérieux, qui minimisent les faits.
Bon, c'est une très bonne question. Et on revient à une partie de l'émission que je développais tout à l'heure. Il est clair que, vous savez que je suis le fondateur d'une méthode que je transmets depuis 2009, n'est-ce pas, hein, Laurie, qui s'appelle la haute qualité relationnelle, protégée à l'INPI et labellisée avec mon organisme de formation. Et il est clair que le week-end, certains enseignants payent sur leur propre denier l'idée d'apprendre les socio-styles, d'apprendre la gestion des conflits, d'apprendre qu'est-ce qu'une dynamique de groupe. Faut que vous sachiez que les enseignants, de plus en plus, sont pas du tout formés. D'ailleurs, il y a tellement peu, il y a une telle crise des vocations qu'ils vont chercher les enseignants sur le bon coin. Et que donc, un enseignant, encore en 2023, pour être bon et enseignant, on lui apprend, et Dieu sait si les choses, à être très bon dans une discipline. C'est-à-dire avoir bac plus 250 en histoire, en maths ou n'importe quoi pour avoir son CAPES ou son agrég. Mais rien du tout sur les relations humaines, sur la gestion des conflits, sur qu'est-ce qu'un humain, sur comment communiquer, la communication inter- et intrapersonnelle, qui devrait être, chers amis auditeurs, un savoir fondamental aussi important que lire, écrire et en compter et d'enseigner de la première année maternelle à la dernière année de fac. Non, j'appelle ça dans pas mal de mes livres le savoir fondamental oublié, vous comprenez Laurie ? Donc, quelque part, et je pèse mes mots, les enseignants sont tout aussi inconsciemment incompétents en termes de communication interpersonnelle que les enfants et les ados. Ils en savent aussi peu. Mais encore une fois, qui est le responsable ? Ceux qui créent les programmes. Pourquoi en 2023 avons-nous des programmes scolaires qui sont dignes de la République des Trois Jules de 1882 ? Jules Ferry, Jules Grévy, Jules Simon. On a un système scolaire complètement obsolète. Vous m'entendez, Laurie ? Donc, quand votre enfant vit du harcèlement, eh bien, l'enseignant, il n'y comprend rien. Comme quand nous, les gens de la formation continue, les formateurs, les coachs, on arrive avec nos méthodes et on voudrait transmettre ça au plus grand nombre au sein de l'éducation nationale, c'est l'armée rouge, l'éducation nationale, vous entendez ? L'armée rouge, ça fonctionne comme la CGT des années 30. C'est des staliniens au niveau des rectorats et des académies. Donc, ils veulent pas, ils ne veulent pas. Et là, eh bien, tout le monde empathie, les victimes sont les enfants, et d'où le suicide du petit Lucas et de dizaines d'autres. Vous vous rendez compte, Laurie, je le disais en début d'émission, un enfant sur 10 dit avoir été harcelé en ce moment. C'est-à-dire que ça fait sur 10 millions d'enfants, 1 million d'enfants. Et encore, il y a ceux qui ne le disent pas. Qu'est-ce qui est arrivé à votre enfant, Laurie ? Allez, dites-le aux auditeurs.
En fait, il a été harcelé toute sa dernière année de maternelle.
Oui.
Donc j'avais beau en parler, etc., je n'étais pas prise au sérieux. La seule chose qu'on me disait, c'est « écoutez, on va faire en sorte qu'ils ne jouent plus ensemble ». Voilà, donc il y avait, ils n'ont jamais pris la maman de l'enfant en question ou l'enfant à part pour essayer de mettre les points sur les i. Et quand ils ont dû passer en CP, ils m'ont dit « de toute façon, il y aura trois classes de CP différentes, donc ils ne seront pas ensemble, on fera en sorte que ce ne soit pas le cas ». Et non, ça a été tout l'inverse, ils se sont retrouvés dans la même classe, donc l'enfer a continué en CP. J'ai été obligée de le changer d'école pour le CE1.
Le système scolaire institutionnel étatique ne s'occupe pas de l'humain. C'est pas sa priorité, vous comprenez ? Le but, c'est de mettre des gens qui auraient plus ou moins des savoirs fondamentaux. Et encore, même là-dedans, on devient de pire en pire, alors que la France avant avait un des meilleurs niveaux. Maintenant, quand on voit les classements PISA, on est de ventre mou du classement. Et on s'occupe pas de l'humain. Il faut aller amener vos enfants dans les écoles Freinet, dans les écoles Steiner, dans les écoles Montessori. Moi, je suis psychosociologue de l'éducation, docteur, hein, et je peux vous dire que oui, il y a des méthodes pédagogiques qui sont centrées sur l'humain. Vous comprenez, Laurie ? Mais certainement pas l'éducation nationale. Et là, en la matière, que ce soit école privée comme école publique, hein, c'est pas le problème, là. On marche qu'à la discipline, c'est-à-dire le maths, le français, les langues, le ceci, le cela. C'est complètement en silo, vous comprenez ? Et donc c'est grave, c'est très grave. Mon livre date de 2009, un de mes 20 livres sur ma méthode, la hache, je l'ai devant les yeux, Laurie, vous pouvez l'acheter à la FNAC ou sur n'importe où, la hache cure à l'école pour un établissement sans violence. Et vous verrez combien c'est détaillé, tous les outils relationnels que je propose pour mettre en place une nouvelle charte. Je vous le dis franchement, il faudrait un plan Marshall du système scolaire. Mais comme on est une civilisation et un pays en pleine décadence, là-dessus je suis d'accord avec Michel Onfray, ça va de plus en plus mal. Hein. Bavrez avait écrit La France qui tombe en 2002, on est 20 ans après, elle est encore plus que tombée, là, notre pays. Hein. Non mais attendez, chers amis auditeurs, je le disais à France 3 l'autre jour, devant Jean-Marie Cavada, on est quand même dans une époque, mes amis, où on donne une poignée d'euros à quelqu'un qui enseigne, une poignée d'euros à quelqu'un qui soigne, et des centaines de milliers d'euros à une abrutie parce qu'elle monte son cul sur Instagram et qu'elle a 15 millions de followers. Et je sais qu'il y a des millions de gens qui ont écrit après à François en disant « Enfin, Christophe Médici met les pieds dans le plat !» Mais qu'on est dans une civilisation où on donne 3 centimes pour les gens qui s'occupent de l'essentiel et des milliards pour du n'importe quoi, où on en est ? Où on en est ? Et il serait peut-être temps qu'on se réveille tous pour dire que là, ça va très très mal. Et je pense que là, le coup de gueule à la Gabin, il est passé. Vous comprenez ce que je veux dire, Laurie ?
Allô ?
Mais vous êtes d'accord, je sais que vous nous entendez mal parce que vous nous appelez très loin, mais vous inquiétez pas, on entendra parler de ça sur les ondes. On va vous embrasser, Laurie, et on vous dit à très bientôt. Merci d'avoir passé un moment avec nous pour vivre heureux, vivons, coachés, à très bientôt.
Qu'on m'efface, je n'ai pas trop d'amis. Regardez en classe, c'est pas l'extase. J'ai beaucoup d'espace, je suis seul. Et personne à qui le dire.
C'est pas le pire.
Quand la pause arrive, je ne suis pas tranquille. Il faut que je m'éclipse ou alors accuser les coups ou dehors. Il faudra que je cours. Tous les jours, faudra-t-il que je que l'on m'écoute. Pour m'en sortir, je dois tenir et construire mon futur. Partir à la conquête d'une vie moins dure.
Sûr que c'est pas gagné,
mais j'assume mes arrières. Pour connaître l'amour et le monde, faudra que je cours. Tous les jours, faudra-t-il que je cours jusqu'au bout pour connaître le monde.
Je cours encore une très belle chanson contre le harcèlement scolaire. Vous êtes toujours avec Christophe Médici dans Pour vivre heureux, vivons coachés. Vous appelez beaucoup, vous êtes très nombreux. Et oui, les gens se responsabilisent pour ce problème. On a une nouvelle radio coachée.
Christophe Médici, radio coachée.
Bonjour Sabrina.
Oui, bonjour Christophe.
Nous sommes heureux de vous accueillir sur les ondes de Dynamic Radio. Alors Sabrina, vous, qu'aimeriez-vous dire aux auditeurs au sujet du harcèlement scolaire ?
Oui, je voulais vous appeler justement parce que j'ai une question en tant que maman.
Oui.
J'ai mon fils Lucas qui a été scolarisé en cours d'année dans une école.
D'accord.
Et je trouve que c'est pas normal qu'il n'y ait pas de processus d'intégration parce que mon fils est assez timide et vraiment quand on arrive dans une nouvelle école, il se fait chahuter, il est assez timide Et rien que ça, c'est le terreau qui peut alimenter du harcèlement.
On est d'accord, tout à fait.
Voilà.
Et donc, est-ce que pour lui, votre enfant, ça s'est pas bien passé très vite?
Oui. Non, ça se passe pas. Ça se passe pas super parce qu'il est pas. Il a changé d'école en cours d'année.
Oui. Et il a vécu du harcèlement. Alors très vite, il a vécu du harcèlement, c'est ça?
Donc il revient, il est pas très bien.
Oui.
Il parle de tous ses chahutements, de ben, ses petits jeux de pouvoir entre. Surtout entre les garçons.
Est-ce que vous avez tenté, Sabrina, d'aller avoir une conversation et de communiquer avec le corps enseignant, notamment avec son enseignant ou son enseignante, je ne sais pas. Est-ce que vous avez essayé d'en parler?
Oui, alors j'ai essayé, dans un premier temps, d'en parler avec la maîtresse.
Oui.
Après, elle me dit qu'elle voit des choses, elle recadre.
Oui.
Il n'y a pas de souci. Mais après, sur les temps informels de galerie, mon fils est un petit peu à part. Elle me dit qu'il se fait des copains, mais elle n'est pas totalement sûre.
Bien sûr.
Donc voilà.
Écoutez, d'abord, on sent chez vous une maman très prévenante, qui fait attention, qui est très à l'écoute, qui a des micros, voire des macro-signes de son enfant, et c'est déjà un atout énorme pour votre enfant. On est d'accord? Vous n'êtes pas une mère ou un parent qui parfois est complètement dans... laisser les enfants, j'ai envie de dire, pousser comme du chien dent, vous connaissez la métaphore, hein, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas du tout là-dedans, Sabrina. Vous êtes une maman qui fait très attention, très à l'écoute de comment se sent son enfant. Vous sentez ce que je veux dire? D'abord, ça, c'est formidable. Après, malheureusement, heureusement, le petit Lucas, sa mère était peut-être aussi comme ça. C'est compliqué, vous savez, le suicide, c'est un mystère. Camus avait dit, c'est la seule question philosophique la plus importante, souviens de Normal Sup, mais je peux vous dire que voilà, moi je dirais, comme disait Elsa Triolet, à l'école il n'y a pas de suicide, il n'y a que des assassinats. Vous voulez que je le répète, Sabrina? À l'école, il n'y a pas de suicide, il n'y a que des assassinats. Elsa Triolet, elle le disait du travail, elle disait, au travail il n'y a pas de suicide, il n'y a que des assassinats. Eh bien moi je peux vous dire que c'est à l'école aussi qu'il n'y a pas de suicide, il n'y a que des assassinats. Quand un enfant suicide qu'il a 11, 12, 13 ans, c'est juste une tragédie, et c'est évidemment les institutions et les adultes qui en sont responsables. Vous entendez? Mais pas les parents. Vous m'entendez? Vous m'entendez,
oui,
Sabrina?
Je pense qu'il manque, c'est des moments informels de communication, de dire ce qui va, ce qui va pas, pour, avec les enfants, entre les enfants, pour améliorer les choses.
Mais on en revient toujours là? En France, on est persuadé que communiquer, ça ne s'apprend pas. Vous comprenez? Pas qu'en France, remarquez, hein, c'est 98% des pays du monde. Le problème de la communication, c'est que c'est un mot fourre-tout, Sabrina. On y met tout. La communication que je transmets, moi, qui est liée à la communication non-violente de Marshall Rosenberg, on est d'accord, c'est une communication inter- et intrapersonnelle. Simplement, quand on dit en France, c'est un bon communicant, on parle de la même chose que de la com, c'est-à-dire des marketeurs, des gens de la pub, des conseillers en communication des politiques. C'est pas de cette communication-là dont on parle, nous. Vous êtes d'accord, Sabrina? On parle de la relation interpersonnelle entre des enfants entre eux et des enseignants. Ça, on est persuadé, et David Servan-Schreiber le disait avant moi, paix à son âme, on est persuadé que ça ne s'apprend pas. Or, les gens font, comme s'il y avait un permis de conduire, des erreurs de communication toutes les secondes, Sabrina. Vous m'entendez? Toutes les secondes, il y a des embardés, des tonneaux, et ça fait des morts, et ça fait des burn-out, et ça fait des gens qui s'en mettent plein la tête, et ça fait les femmes qui meurent une fois tous les trois jours sous le coup de leur conjoint, et ça fait des couples qui rompent, et ça fait des... Ça fait tout! Non, quand on dit que c'est un grand communicant, on dit que c'est un grand orateur. Mais on parle pas de cette communication-là. On parle pas de quelqu'un d'éloquent, nous. On parle de qu'est-ce que tu me dis avec ton cœur, avec tes émotions, avec les mots que t'envoies à mon cerveau, avec les mots que t'envoies à mes cellules. Mince! On est en 2023. Quand va-t-on sortir du Moyen-Âge relationnel? Vous savez, Sabrina, je vais vous raconter une anecdote. J'étais encore au Salon du Bien-être, là, tout le week-end. J'y ai donné 3 conférences. Eh bien, je peux vous dire que les gens hochent de la tête en faisant de haut en bas, en comprenant qu'on les leurre, en leur en prenant pas l'essentiel. Est-ce que vous me suivez, Sabrina? Sabrina, on a perdu Sabrina. Vous êtes là, Sabrina? On va vous embrasser, Sabrina. Les gens appellent de très très loin, et donc j'espère qu'ils entendront quand même. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Merci, Sabrina.
Merci beaucoup.
J'apprends d'ici que ma vie ne sera pas facile chez les gens. Je serai trop différent pour leur vie si tranquille pour ces gens. I want to see you.
être si différent pour ces gens. Quand je serai sûr de moi, un petit peu moins fragile, ça ira. I want to see you.
Nicolas Sirkis, que j'aime beaucoup, qui s'est positionné parce qu'il avait un neveu qui a vécu énormément de harcèlement. Regardez le clip d'ailleurs, tellement il est fort, il est évidemment coup de poing. Vous êtes toujours avec Christophe Médici. Nous allons finir cette émission avec quelqu'un qui s'y connaît au niveau juridique. Jonathan, bonjour.
Bonjour Christophe.
Vous vouliez dire quelque chose en tant que juriste sur la situation d'un directeur d'école qui a des responsabilités, expliquez.
Absolument. Lorsque vous êtes directeur d'école, vous êtes officier d'État. Ça veut dire que vous représentez aussi l'État. Donc vous êtes dans l'obligation, quoi qu'il arrive, de dénoncer les faits et gestes qui se passent dans votre établissement. Vous avez le devoir de le faire.
Et est-ce que le directeur ou le proviseur, quel que soit collège, lycée, est responsable quelque part de choses qui arrivent dans son établissement?
Absolument.
D'accord. Donc à partir de là, les parents peuvent aller se retourner, entre guillemets, en tout cas lui en parler, et lui mettre face à ses responsabilités.
Tout à fait. Exactement.
Vous entendez, chers amis auditeurs, ce que nous dit Jonathan est très éclairant. Toute notre gratitude, Jonathan. Le proviseur et le directeur, bon, le pauvre, lui non plus, il n'est pas payé des milliards, hein, mais il a des sacrées responsabilités et il doit tenir compte de ce que les parents viennent lui dire. Sauf que, comme je disais en cours d'émission, Jonathan, souvent, c'est sourter le parapluie. Il veut pas de vagues, il veut pas une mauvaise image de son collège Jean Jaurès.
C'est ça.
Ou de son collège Jules Vallès, et il va faire en sorte que on étouffe tout.
Et c'est souvent ces paroles contre paroles également, parce qu'il n'y a pas de preuves visuelles qui prouvent également le harcèlement d'un élève ou d'un autre. Donc c'est-à-dire que ça va être les parents qui vont aller voir le professeur ou le CPE, le conseil principal d'éducation, ou le directeur, et qui vont lui dire, voilà, mon enfant, il se plaint d'harcèlement à l'école, et ça va être pris un petit peu à la légère au niveau des enseignants ou du directeur ou du CPE, parce qu'ils n'ont pas de faits réels, ils n'ont pas vu ce qui s'est exactement passé. Donc ça pose aussi un énorme problème.
Tout à
fait.
Moi,
je l'ai vécu au collège. J'ai défendu mes camarades qui étaient harcelés, d'ailleurs. J'ai un ami qui est... il était obèse et on l'appelait 50 Cent parce qu'il s'habillait vraiment 5 centimes parce qu'il s'habillait vraiment très mal. Et effectivement, j'ai toujours défendu parce que je déteste l'injustice. Et effectivement, il y a quelques années plus tard, il est devenu mannequin, ce jeune homme. Donc, comme quoi.
On transforme. Voilà.
Donc si on prend la peine de défendre ses camarades et d'avoir un... Parce que c'est pareil, hein, c'est un effet de groupe aussi, hein, le harcèlement.
Ouais, on en a parlé, effet de masse, ouais.
Effectivement, on se sent peut-être plus fort, on appartient à ce qu'on appelle un groupe d'appartenance parce qu'on est des harceleurs et on préfère être harceleur que victime.
Merci, Jonathan. C'était une très, très belle, dernière intervention en fin d'émission. Chers auditeurs, je vous remercie toutes et tous. Vous pourrez écouter le podcast et écouter à nouveau l'émission sur Dynamic Radio, la number one des radios. Sachez qu'on fait toujours ensemble. Et je voudrais finir sur cette phrase magnifique que j'avais mise en exergue de mon livre « Savoir gérer les personnes toxiques » que j'avais dédié à Robin Williams et surtout à ce film magnifique quand il joue Keating dans le cercle des poètes disparus. Hein, je l'avais dédié à tous les Nils de la Terre qui se suicident. Cette phrase de Voltaire qui disait « Plus les hommes sont éclairés, plus ils sont libres ». Pensez bien à cette phrase importante. Je vous dis à la semaine prochaine. On vous embrasse. À très bientôt. Merci de votre attention.
Pour vivre heureux, vivons coachés. Une émission produite et réalisée par Christophe Médicis.